Livre deuxième, chapitre 6. La rose de Crisis. C'était une procession blanche et bleue et jaune et rose et verte. 30 courtisanes s'avançaient, portant des corbeilles de fleurs, des colombes de neige aux pieds rouges, des voiles du plus fragile azur et des ornements précieux. Un vieux prêtre, barbu de blanc, enveloppé jusqu'autour de la tête dans une raie d'étoffe écrue, marchait devant le jeune cortège et guidait vers l'autel de pierre la file des dévotes inclinées. Elles chantaient, et leurs chants traînaient comme la mer, soupiraient comme le vent du midi, haletaient comme une bouche amoureuse. Les deux premières portaient des harpes qu'elles soutenaient au croc de leur main gauche et qui se courbaient en avant comme des faucilles de bois grêle. L'une d'elles s'avança et dit « Triféra, ô Cypris aimé, t'offre ce voile bleu qu'elle a tissé elle-même afin que tu continues à lui être bienveillante. » Une autre « Mousarion dépose à tes pieds, ô déesse à la belle couronne, ses couronnes de giroflées et ce bouquet de narcisses penchés. Elle les a portées dans l'orgie et a invoqué ton nom dans l'ivresse de leur parfum. Ô victorieuse, accueille ces dépouilles d'amour. » Une autre encore. En offrant à toi, citerée d'or, Timo consacre ce bracelet en spirale. Puisses-tu enrouler la vengeance à la gorge de qui tu sais, comme ce serpent d'argent s'enroulait en haut de ses bras nus. Myrtocléa et Rhodis avancèrent, se tenant par la main. Voici deux colombes de Smyrne, aux ailes blanches comme des caresses, aux pieds rouges comme des baisers. Ô double déesse d'Amatonte, accepte-les de nos mains unies, s'il est vrai que le mol Adonis ne te suffit pas seul et qu'une étreinte encore plus douce retarde parfois ton sommeil. » Une courtisane très jeune suivit. « Aphrodite Péribasia, reçois ma virginité avec cette tunique tachée de sang. Je suis Panikis de Pharos. Depuis la nuit dernière, je me suis voué à toi. » Une autre. Dorothea te conjure, ô charitable Épistrophia, d'éloigner de son esprit le désir qui a jeté l'éros, ou d'enflammer enfin pour elle les yeux de celui qui se refuse. Elle t'offre cette branche de myrte parce que c'est l'arbre que tu préfères. » Une autre. Sur ton autel, ô Paphia, Calistion dépose 60 drachmes d'argent, le superflu de 4 mines qu'elle a reçues de Cléoménès. Donne-lui un amant plus généreux encore si l'offrande te semble belle. » Il ne restait plus devant l'idole qu'une enfant toute rougissante qui s'était mise la dernière. Elle ne tenait à la main qu'une petite couronne de croco, et le prêtre la méprisait pour une aussi mince offrande. Elle dit: « Je ne suis pas assez riche pour te donner des pièces d'argent, ô brillante olympienne. D'ailleurs, que pourrais-je te donner que tu ne possèdes pas encore? Voici des fleurs jaunes et vertes, tressées en couronne pour tes pieds. Et maintenant ?» Elle défit les deux boucles de sa tunique et se mit nue, l'étoffe ayant glissé à terre. « Me voici tout entière à toi, déesse aimée. Je voudrais entrer dans tes jardins, mourir courtisane du temple. Je jure de ne désirer que l'amour, je jure de n'aimer qu'à aimer, et je renonce au monde et je m'enferme en toi. » Le prêtre alors la couvrit de parfums et entoura sa nudité du voile tissé par Triféra. Elles sortirent ensemble de la nef par la porte des jardins. La procession semblait finie et les autres courtisanes allaient retourner sur leurs pas quand on vit entrer en retard une dernière femme sur le seuil. Celle-ci n'avait rien à la main, et on put croire qu'elle aussi ne venait offrir que sa beauté. Ses cheveux semblaient deux flots d'or, deux profondes vagues pleines d'ombre qui engloutissaient les oreilles et se tordaient en sept tours sur la nuque. Le nez était délicat, avec des narines expressives qui palpitaient quelquefois au-dessus d'une bouche épaisse et peinte aux coins arrondis et mouvants. La ligne souple du corps ondulait à chaque pas et s'animait du roulé des hanches ou du balancement des seins libres sous qui la taille pliait. Ses yeux étaient extraordinaires, bleus, mais foncés et brillants à la fois, changeant comme des pierres lunaires, à demi-clos sous les cils couchés. Il regardait ses yeux comme les sirènes chantent. Le prêtre se tournait vers elle, attendant qu'elle parlât. Elle dit « Chrysis, ô Chryseïa, te supplie. Accueille les faibles dons qu'elle pose à tes pieds. Écoute, exauce, aime et soulage celle qui vit selon ton exemple et pour le culte de ton nom. » Elle tendit en avant ses mains dorées de bagues et se pencha les jambes serrées. Le chant vague recommença. Le murmure des harpes monta vers la statue avec la fumée rapide de l'encens que le prêtre brûlait dans une cassolette frémissante. Elle se redressa lentement et présenta un miroir de bronze qui pendait à sa ceinture. « À toi, dit-elle, Astarté de la nuit, qui mêle les mains et les lèvres et dont le symbole est semblable à l'empreinte du pied des biches sur la terre pâle de Syrie, Chrysis consacre son miroir. Il a vu la cernure des paupières, l'éclat des yeux après l'amour, les cheveux collés sur les tempes par la sueur de tes luttes, ô combattante aux mains acharnées qui mêlent les corps et les bouches. » Le prêtre posa le miroir au pied de la statue. Chrysis tira de son chignon d'or un long peigne de cuivre rouge, métal planétaire de la déesse. « À toi, dit-elle, Anadyomène, qui naquit de la sanglante aurore et du sourire écumeux de la mer, à toi, nudité gouttelante de perles qui nouait ta chevelure mouillée avec des rubans d'algues vertes, Chrysis consacre son peigne. Il a plongé dans ses cheveux bouleversés par tes mouvements, ô furieuse adonienne haletante, qui creuse la cambrure des reins et crispe les genoux raidis. » Elle donna le peigne au vieillard et pencha la tête à droite pour ôter son collier d'émeraude. À toi, dit-elle, ô Étaïr, qui dissipe la rougeur des vierges honteuses et conseille le rire impudique, à toi, pour qui nous mettons en vente l'amour ruisselant de nos entrailles, Chrysis consacre son collier. Il a été donné en salaire par un homme dont elle ignore le nom, et chaque émeraude est un baiser où tu as vécu un instant. Elle s'inclina une dernière fois plus longtemps, mit le collier dans les mains du prêtre et fit un pas pour s'en aller. Le prêtre la retint. « Que demandes-tu à la déesse pour ces précieuses offrandes ?» Elle sourit en secouant la tête et dit « Je ne demande rien. » Puis elle passa le long de la procession, vola une rose dans une corbeille et la mit à sa bouche en sortant. Une à une, toutes les femmes suivirent. La porte se referma sur le temple vide. Démétrios restait seul, caché dans le piédestal de bronze. De toute cette scène, il n'avait perdu ni un geste ni une parole, et quand tout fut terminé, il resta longtemps sans bouger, à nouveau tourmenté, passionné, irrésolu. Il s'était cru guéri de sa démence de la veille, et il n'avait pas pensé que rien, désormais, pût le jeter une seconde fois dans l'ombre ardente de cet inconnu. Mais il avait compté sans elle. « Femme, ô femme, si vous voulez être aimée, montrez-vous, revenez, soyez là !» L'émotion qu'il avait sentie à l'entrée de la courtisane était si totale et si lourde qu'il ne fallait plus songer à la combattre par un coup de volonté. Démétrios était lié comme un esclave barbare à un char de triomphe. S'échapper était illusion. Sans le savoir, et naturellement, elle avait mis la main sur lui. Il l'avait vue venir de très loin, car elle portait la même étoffe jaune qu'à son passage sur la jetée. Elle marchait à pas lents et souples, en ondulant les hanches mollement. Elle était venue droit à lui, comme si elle l'avait deviné derrière la pierre. Dès le premier instant, il comprit qu'il retombait à ses pieds. Quand elle tira de sa ceinture le miroir de bronze poli, elle s'y regarda quelque temps avant de le donner au prêtre, et l'éclat de ses yeux devint stupéfiant. Quand, pour prendre son peigne de cuivre, elle passa la main sur ses cheveux en levant un bras plié selon le geste des Carites, toute la belle ligne de son corps se développa sous l'étoffe, et le soleil alluma dans les selles une rosée de sueur brillante et menue. Enfin, quand, pour soulever et défaire son collier de lourdes émeraudes, elle écarta la soie plissée qui voilait sa double poitrine jusqu'aux doux espaces emplis d'ombre où l'on ne peut glisser qu'un bouquet, Démétrios se sentit pris d'une telle frénésie d'y poser les lèvres et d'arracher toute la robe. Mais Chrysis se mit à parler. Elle parla, et chacun de ses mots était une souffrance pour lui. À plaisir, elle semblait insister et s'étendre sur la prostitution de ce vase de beauté qu'elle était, blanc comme la statue elle-même et plein d'or qui ruisselait en chevelure. Elle disait sa porte ouverte à l'oisiveté des passants, la contemplation de son corps abandonné à des indignes et le soin de mettre en feu ses joues à des enfants maladroits. Elle disait la fatigue vénale de ses yeux, ses lèvres louées à la nuit, ses cheveux confiés à des mains brutales, sa divinité labourée. L'excès même des facilités qui entouraient son approche inclinait Démétrios vers elle, décidé du moins à en user pour lui seul et à fermer la porte derrière lui. Tant il est vrai qu'une femme n'est pleinement séduisante que si l'on a lieu d'en être jaloux. Aussi, lorsque, ayant donné à la déesse son collier vert en échange de celui qu'elle espérait, Chrysis s'en retourna vers la ville, elle emportait une volonté humaine à sa bouche comme la petite rose volée dont elle mordillait la queue. Démétrios attendit qu'il fût laissé seul dans l'enceinte, puis il sortit de sa retraite. Il regarda la statue avec trouble, s'attendant à une lutte en lui. Mais comme il était incapable de renouveler à si bref intervalle une émotion très violente, il redevint étonnamment calme et sans remords prématurés. Insouciant, il monta doucement près de la statue, souleva sur la nuque inclinée le collier des vraies perles de l'Anadyomène et le glissa dans ses vêtements.